l'Ancien Testament, mais j'ai voulu aider les gens à découvrir l'Ancien Testament pour mieux comprendre le Nouveau Testament, mais aussi pour le lire en regardant avec deux accents. Un premier accent, on lit en regardant qu'est-ce que le texte dit sur l'homme, l'individu dont on parle, et qu'est-ce que le texte dit sur Dieu qui couvre l'histoire. Et je vous encourage à réfléchir de cette façon-là quand vous allez lire à travers les textes de l'Ancien Testament. Toujours se poser la question, qu'est-ce qu'on apprend sur Dieu dans ce texte-là et qu'est-ce qu'on apprend sur l'homme? Oups, quelque chose vient d'arriver. C'est beau? OK. Qu'est-ce qu'on apprend sur Dieu? Qu'est-ce qu'on apprend sur l'homme? Quand on lit l'Ancien Testament, souvent on va s'attarder à l'histoire. Il y a des histoires belles puis pas belles. Et dans l'Ancien Testament, Dieu... L'Ancien Testament est très honnête, hein? L'Ancien Testament nous révèle les plus mauvais côtés de la nature humaine, même parmi les hommes de Dieu, puis les plus beaux côtés de la nature humaine. Mais en même temps, l'Ancien Testament nous enseigne aussi qu'est-ce que Dieu a fait envers l'homme, qu'est-ce que Dieu fait envers nous, et qu'est-ce que Dieu fait en fonction des décisions qu'on prend. Et dans l'Ancien Testament, les hommes ont pris toutes sortes de décisions, des bonnes, des pas bonnes, et Dieu a appliqué des conséquences en fonction de leurs bonnes ou de leurs mauvaises décisions. Et c'est un peu ça qu'on va regarder ce matin. Ça m'a beaucoup enrichi personnellement de faire un survol de l'Ancien Testament, de tous les livres de l'Ancien Testament. Alors, je faisais ça le dimanche après-midi aux deux semaines sur Zoom. Il y avait une trentaine de personnes qui étaient là. Ça a été une belle expérience, autant pour moi que pour les autres, j'espère. Vous savez, un des éléments, on va regarder un texte ce matin. Un des éléments qui est un défi dans notre vie chrétienne, c'est de persévérer du début à la fin de notre vie. Une des choses qui m'édifie beaucoup, c'est le service funéraire de quelqu'un qui a persévéré jusqu'à la fin, où on peut dire il est resté fidèle jusqu'à la fin. Et à ce moment-là, on a le témoignage de quelqu'un qui a passé, les gens passent à travers des montagnes russes dans leur vie, des difficultés, comment ils traversent les difficultés. Mais il y en a que les montagnes russes, c'est différent. On va regarder un des rois de l'Ancien Testament, le roi Assa, dans 2 Chroniques, chapitre 14. On va survoler les chapitres 14, 15 et 16, et je vais juste survoler l'histoire et tirer quelques leçons pour nous autres là-dedans. Une des choses qu'on réalise, c'est que un des défis dans notre vie, c'est de persévérer. Et que c'est donc dur. Hein, la diète. Je connais des gens qui ont perdu 1000 livres dans leur vie. À coup de 50 en plus, 100 en moins, la persévérance dans la nourriture, persévérance dans notre culte personnel. On marche, on est fidèle pour un temps dans notre culte personnel, puis à un moment donné, on oublie ça, et puis on est 2 semaines, 3 semaines à se relâcher. Ça prend de la persévérance pour dire non à nous-mêmes, à différentes choses. Ceux qui ont des problèmes avec la cigarette, qui veulent arrêter de fumer, moi, ils ont toute mon admiration parce que c'est beaucoup de persévérance, c'est beaucoup de décisions. Même chose, ceux qui vivent des problèmes avec la drogue, la gestion de la colère. Hey, combien de fois on fait la promesse de mieux gérer notre colère jusqu'à temps qu'on choque? Alors, la question de persévérance est une question qui revient tout le temps. Dans le texte qu'on va regarder ce matin, c'est le roi Assa. C'est un bon roi. Vous vous rappelez, dans le royaume d'Israël, quand on parle d'Israël, il y avait l'Israël du Nord, puis c'était divisé après Salomon sous Roboam, et il y avait le Sud qu'on appelait Juda. Donc, dans la majeure partie de l'Ancien Testament, à partir des rois, on entend parler d'Israël et de Juda. Assa était un roi de Juda. Donc, dans les rois d'Israël, il n'y a eu aucun bon roi, il n'y a eu aucun réveil spirituel, ça a été que de l'idolâtrie. Et en 722 avant Jésus-Christ, ils ont été déportés en Assyrie. Dans la partie du sud, dans Juda, il y a eu environ 7 bons rois sur à peu près 17. Et ils ont vécu des réveils. Assa en était un. Mais la persévérance n'a pas été au rendez-vous. Et on va voir de quoi ça a l'air. La différence dans la vie d'un individu lorsque la persévérance est là Et lorsque la persévérance n'est plus là, rappelez-vous, on va regarder cet exemple-là en fonction de qu'est-ce qu'on a à apprendre, nous, de ça. Et à chaque fois que vous lisez l'Ancien Testament, que vous parcourez l'histoire d'un homme quelconque, un de ceux de qui on décrit soit les faits ou la vie dans l'Ancien Testament, arrêtez-vous et posez-vous la question, qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour moi? Qu'est-ce que je peux retenir comme leçon? Et qu'est-ce que j'apprends sur Dieu face à cette situation-là? Comment Dieu a agi envers lui? Parce que la même manière que Dieu a agi envers les hommes de l'Ancien Testament, Dieu ne change pas. Il va agir aussi envers moi comme ça, parce que Dieu ne change pas, il est le même. Une des phrases que je vais revenir souvent avec, et que moi-même j'ai appris dans ma vie à la dure, c'est que la victoire d'un jour n'est pas la victoire de tous les jours. On aimerait ça, hein, avoir une victoire, puis chapeau, être inscrite pour le restant de notre vie, puis ça va rester là. Mais c'est pas ça. La victoire d'un jour n'est pas la victoire de tous les jours. Puis on a besoin d'y revenir. On a besoin d'y revenir. Et on a des tas d'exemples de ça dans l'Ancien Testament. Donc, le roi qui nous occupe, c'est le cinquième après David. Alors, il y a eu David, il y a eu Salomon, il y a eu Roboam, il y a eu Abidja. Après ça, il y a eu ce roi-là. Donc, on a un bout de temps de fait dans l'histoire du royaume séparé. Et c'est un roi qui a bien commencé, il a fait des réformes religieuses. Alors, si vous êtes dans 2 Chroniques, chapitre 14... 2 Chroniques, chapitre 14, et je vais lire, je vais parcourir certains textes, pas tous les chapitres, parce que ce serait vraiment long. Alors, chapitre 14, verset 1. « Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel de Dieu, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. » Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil. Et le royaume fut en repos devant lui. Ailleurs, dans le livre parallèle, qui est un roi, chapitre 15, on en apprend un petit peu plus sur lui. On dit qu'il a fait disparaître les prostituées du pays. Il a même enlevé la dignité royale à sa grand-mère parce qu'elle adorait Astarté. Il a rempli les trésors pour la gloire de l'Éternel. Il a fait beaucoup de bonnes choses. Il faut juste se rappeler qu'à ce moment-là, la vie spirituelle du peuple dépendait beaucoup de la vie spirituelle du roi. Si le roi donnait le ton, le peuple suivait. C'est ce qui faisait que des fois, les réveils étaient fragiles, parce que les réveils étaient faits parce que les gens suivaient le roi. Du moment qu'il rentrait un autre roi qui était plus mauvais, les gens prenaient la même tangente. Alors, dans le début de sa royauté, il a fait confiance à Dieu. Puis on a un bel exemple au verset 10, toujours du même chapitre 14, verset 10. Là, dans cette situation-là, il est assailli. Une des choses qu'on apprend, c'est que Asa avait une armée de 580 000 hommes. Pas pire quand même, hein? Mais là, il y en a un autre qui vient contre lui avec une armée d'un million. Il est en déficit. Chapitre 14, verset 10. Et là, on a sa réaction. Asa invoqua le nom de l'Éternel, invoqua l'Éternel son Dieu. Il dit, « Éternel, toi seul, peux-tu venir en aide aux faibles comme aux forts? Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. » Tu te dis, waouh, hey, ça, c'est une belle prière. Et quand on regarde ce qu'il a fait, la manière dont il s'est tourné instantanément vers Dieu, le sorte de prière, la nature de sa prière, on voit sa confiance. Et là, on a vraiment un bel exemple. Je ne sais pas quelle est usuellement votre réaction devant l'épreuve, devant les difficultés, à part s'énerver. Des fois, on a de la misère à voir Dieu en premier. On voit le trouble en premier, on voit les difficultés en premier. Avec l'exemple de Asa, ce qu'il a fait en premier, ça a été de se tourner vers l'Éternel et d'aller chercher la confiance de l'Éternel. Et effectivement, Dieu lui a donné la victoire avec la moitié, 50% de l'armée que l'autre avait. Donc, ça a l'air qu'il faut que je me serve aussi de ça. Excusez-moi, là. Je suis en train de... c'est supposé marcher? Ah, on est là. Alors finalement, si l'histoire s'était arrêtée là, on aurait une merveilleuse histoire et Assa a donné un exemple intéressant. À ce point-ci, est-ce que tu peux dire que dans tes réactions, face aux difficultés, face aux épreuves, est-ce que ce serait le genre de prière que tu ferais? On va la relire. Parce que, mettez-la, en la lisant, mettez-vous dedans. C'est vous. Avec vos problèmes d'enfants, vos problèmes de job, vos problèmes de santé, vos problèmes de n'importe quoi. Gilles, on va mettre Gilles, mais... Gilles prie Dieu, éternel, toi seul, tu peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens notre aide éternelle, notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai vu la prière de la foi, la prière de la confiance, la prière de l'enfant qui se confie à son père, la prière de celui qui réalise sa totale dépendance sur Dieu. Est-ce que ça te caractérise, ça, dans tes prières? Est-ce que ça te caractérise? Et là, je vais ajouter un mot important. Est-ce que ça te caractérise tout le temps? La victoire d'un jour, ce n'est pas la victoire nécessairement de tous les jours. Il nous faut persévérer et persévérer et persévérer. Et une des choses qu'on réalise, une des premières leçons... Tu veux le tourner? Parce qu'il ne tourne pas, moi. Avance encore. Une des premières leçons, c'est que la croissance spirituelle passe par un engagement à dépendre de Dieu. À dépendre de Dieu et à lui être fidèle. Mais la dépendance soutient l'idée que je me place sous la protection de mon Dieu. Et souvent, notre nature est faite qu'on reprend le contrôle. Et puis là, on décide de s'arranger soi-même, puis de sortir du pétrin soi-même, puis de se trouver des ressources. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester passif puis attendre que le ciel nous tombe sur la tête. Mais ici, ce que Assa a fait, il a premièrement mis sa confiance en Dieu et ensuite il est allé à la guerre. Il n'est pas resté dans son pays passif à attendre que la victoire arrive. Il a quand même fait ce qu'il devait faire. Il faut être prêt à se débarrasser d'une certaine façon de cette indépendance face à Dieu qui fait que je m'assume moi-même et puis je prends mes décisions moi-même et puis la force vient de mes ressources. Alors, c'est tout un défi, non seulement de foi, mais de persévérance à continuer de marcher par la foi. On continue avec l'histoire de Assa dans le chapitre 16. Et là, dans le chapitre 16, on va voir que ça change un peu de direction, ça change un peu de ton. La 36e année de son règne, versets 1 à 3. La 36e année du règne de Assa, Bécha, roi d'Israël, monta contre Juda et il bâtit Rama pour empêcher ceux de Assa, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Assa sortit l'argent et l'or des trésors de sa maison, de la maison de l'Éternel et de la maison du roi, et il envoya des messagers vers Ben-Hadad, roi de Syrie, qui habitait Damas. Il lui fit dire qu'il y a une alliance entre moi et toi, comme il y en a eu entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie de l'argent et de l'or. « Va, romps ton alliance avec Bécha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. » Je vous résume ça dans d'autres mots. Le royaume du Nord en voulait toujours au royaume du Sud. Et puis, le royaume du Nord voulait faire affaire avec la Syrie, qui était le voisin, le gros voisin à côté, et puis pour venir envahir. Et puis, Souvent, ça fonctionnait comme ça. Là, le Royaume du Nord a décidé de mettre une ville qui s'appelait Rama à la frontière, de telle façon que les gens ne descendent pas. Parce que le Royaume du Nord était idolâtre. Donc, les gens qui voulaient marcher avec Dieu immigraient et s'en allaient dans le Royaume du Sud. Donc, le roi a décidé, on va construire une ville, on va arrêter ça, on va lui bloquer le chemin. Alors, militairement parlant, on peut comprendre la logique de l'histoire. Si vous regardez les nouvelles, en Russie, ça ressemble un peu à ça. Et là, le Royaume du Sud, lui, il s'est senti agressé. Fait que là, il va chercher, et là, si vous regardez l'histoire, on est rendu loin. Le roi Assa a régné 41 ans. On est rendu à la 35e année, à la 36e année. Mais là, il n'a pas fait comme au début. Au lieu de tourner vers Dieu puis revenir à la belle prière qu'il a faite au début, il s'est dit, je vais sortir l'argent de mon compte de banque puis je vais envoyer ça au roi de Syrie. Hein? Le compte de l'église, oui, c'était le compte du temple. Et puis, je vais envoyer ça. Je vais acheter le roi de Syrie. Puis le roi de Syrie va venir m'aider, me protéger. Puis là, on va reconquérir Rama. Et c'est ce qu'il a fait. Il a reconquis Rama. Et puis, il s'est servi de ça pour bâtir d'autres villes. Puis il y a eu la paix d'en haut. Bingo! Puis ça a marché. Ça a absolument marché. C'est ce qui s'est passé. Techniquement parlant, militairement parlant, le gars, il l'a eu. Il a fait quelque chose que n'importe qui aurait pensé de faire. Sauf que Dieu regardait ça. Puis là, il a justement perdu son élément de persévérance de regarder à Dieu. Puis là, il s'est confié en d'autres choses, dans ses richesses. C'est un peu semblable à ce qu'on voit souvent quand on est mal pris financièrement, on prend l'argent de la dîme puis on la met dans d'autres choses pour payer nos dettes. Et puis, on a des ressources, on utilise nos ressources pour payer nos affaires, assurer notre sécurité. Puis on dit, m'arrêter de donner mon argent au Seigneur pour un bout de temps, parce que ce qu'il a pris, c'était l'argent du temple. Ce qu'il a pris, c'était l'argent du temple. Il a carrément pigé dans le budget de l'Église, on va le dire de même, pour payer un ennemi pour venir le protéger. Et puis, chose bizarre, Dieu n'a rien fait. Si vous lisez le texte, là, Dieu n'a rien fait. Dieu ne l'a pas arrêté. Puis là, il y en a qui vont dire, oui, mais ça doit être la volonté de Dieu. Regarde, Dieu a ouvert les portes. Et puis, regarde, ça a marché. Le roi du Nord m'a fiché à paix. Le roi de Syrie est venu. On a gagné. Bien, c'est ça. Dieu a ouvert les portes. Et puis, quand tu regardes ça, tu dis, non, Dieu n'a pas ouvert les portes. Dieu t'a juste laissé aller à ta connerie. Dieu t'a juste laissé faire pour qu'elle t'apprenne autre chose. Souvent, les chrétiens mélangent la volonté de Dieu avec leur volonté de Dieu. Et parce que Dieu ne les arrête pas, bien, ils disent, bien, ça doit être la volonté de Dieu. Dieu ne m'a pas arrêté. Dieu n'a pas fermé les portes. Mais attention, le silence de Dieu ne veut pas dire l'approbation de Dieu. Et souvent, dans la parole, on se rend compte que Dieu reste silencieux devant... Lorsque David a regardé la Madame Bathsheba se baigner, il n'a pas provoqué l'aveuglement chez David instantanément. Il n'a pas fait venir un soldat pour le sortir de là, pour l'amener dans d'autres choses. Dieu l'a laissé faire. Dieu l'a laissé aller à son péché avec toutes les conséquences qu'on voit. Alors, ici, on réalise que Assa a choisi de mettre sa confiance en autre chose. Et dans le chapitre 15, le chapitre précédent, il avait dit, « Si vous abandonnez l'Éternel, l'Éternel vous abandonnera aussi. » Et revenez au chapitre 16, et là, on voit la réaction de Dieu. Chapitre 16, verset 7. « Dans ce temps-là, Hanan, le voyant, alla auprès de Assa, roi de Juda, et lui dit, « Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie, et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel, ton Dieu. L'armée du roi de Syrie s'est échappée entre tes mains. Les Éthiopiens, les Libyens ne formaient... » Et là, Dieu, il fait la leçon, en revenant sur le passé. « Les Éthiopiens, les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec les chars et une multitude de cavaliers? Et cependant, il les a livrés entre tes mains parce que tu t'étais appuyé sur lui. » car l'Éternel étend les regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé. J'aurais eu envie de dire à Dieu, garde, plutôt que de lui dire après coup, tu as agi en insensé, pourquoi tu ne l'as pas arrêté avant? De telle manière à ce que le gars ne fasse pas de conneries. De telle manière à ce qu'il ne tombe pas dans le panneau. Mais vous savez quoi? Dieu nous a créés avec un libre arbitre. Je dis souvent dans mes mots, Dieu nous a créés avec le dangereux privilège de faire des choix. Mais Dieu se réserve le droit des conséquences. Mais Dieu nous a créés avec le dangereux privilège de faire des choix, qu'on appelle le libre arbitre. Tu peux utiliser ton libre arbitre comme tu veux, mais assume ce qui vient après. Et ici, c'est ce qui est arrivé. Dieu a laissé Asa utiliser son libre arbitre pour faire des choix. Mais là, Dieu vient après. Tu as agi en insensé et dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. Mais là, regardez ce qui s'est passé. On continue un peu. Asa fut irrité contre le voyant et il le fit mettre en prison parce qu'il était en colère contre lui. Et dans le même temps, Asa opprima aussi quelques-uns du peuple. Alors, Asa s'est choqué et devant une réprimande, il a décidé de se débarrasser du messager pensant se débarrasser du message. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire ça? Un frère ou une sœur vient vous exhorter, vous n'êtes pas content, puis vous n'y parlez plus. Ou vous l'envoyez carrément promener, puis vous lui dites, « Hey, mêle-toi de tes affaires, toi aussi tu as des problèmes. Tu ne pourrais pas régler ta vie avant de régler la mienne? Garde, reste loin de moi, là, fais tes choses. » C'est souvent ce qui arrive de dire, quand on parle. Et ça vous est déjà arrivé de vous sentir un peu marcher sur le bout des pieds pour aller exhorter quelqu'un parce qu'on sait que la personne n'aime pas se faire reprendre. Mais vous savez, il y a un principe biblique qu'on voit dans les Écritures dans beaucoup d'occasions. On ne peut pas effacer le message de Dieu en repoussant le messager. Tu as beau repousser le messager autant que tu veux, tu ne changeras pas le message. Et Asa a juste perdu une bonne occasion de se repentir. Asa a juste perdu une bonne occasion d'entendre Dieu. Je me rappelle, à Chibougamau, on vivait un temps difficile, et puis je m'en allais suivre un cours à Montréal. Pendant que je restais à Chibougamau, j'ai fait ma formation avec Sembec. Donc, régulièrement, je partais de Chibougamau, puis m'en allais à Montréal. Je partais pour 2 semaines. Puis là, on avait passé un temps difficile. Et puis, j'en avais là. Et puis là, ça, dans ma tête, je me disais, ça donne-tu bien, je m'en vais pour 2 semaines. T'sais. Fait que j'avais fait tous mes bagages, j'avais tout mis ça dans ma voiture. Puis là, je rentrais embrasser ma femme, dire au revoir, téléphone sonne. Puis là, c'est une sœur de l'Église. Puis elle me dit, elle s'y est pris bien comme il faut. Elle dit, Gilles, elle dit, je voudrais pas me mêler de tes affaires. Puis elle dit, je voudrais pas te dire quoi faire. Mais elle dit, tu sais, elle dit, je pense que tu planifiais partir et puis c'est pas le bon temps. Je pense qu'il faut que tu restes puis qu'on règle les affaires. Puis au bout du fil, là, c'est exactement comme si c'était Dieu qui me parlait. Et puis, là, je me suis arrêté, puis j'ai dit, c'est vrai. J'ai cancellé mon cours, je suis resté. Et on a travaillé à régler le problème qui se passait dans l'Église. Il y a des moments donnés comme ça où Dieu... encore aujourd'hui, j'ai la profonde conviction que Dieu a mis à cœur à cette sœur-là de m'appeler juste dans le bon temps. Et j'ai compris une chose. Ce n'était pas un message de Mme Untel. C'était un message de Dieu à travers Mme Untel. Et toute ta vie chrétienne, Dieu va se servir de des gens. Dieu va se servir de des personnes. Et un jour, j'étais au téléphone et puis j'appelais la banque. Et puis le gars me demandait toutes sortes Le gars me demandait toutes sortes de renseignements sur mon compte de banque. Quand est-ce que... Vous savez, pour nous identifier, il nous demande plein de questions. Là. Il y avait des questions que je savais, d'autres questions que je ne savais pas. Je suis devenu impatient. Je disais, hey, bon, écoute, là, je veux juste ça, là, tu sais, garde. Alors, je suis devenu impatient. Le gars, l'autre bout, est resté patient. Et puis, à la fin de la conversation, où j'avais perdu patience, sans l'insulter, mais j'avais vraiment perdu patience dans mon timbre de voix, le gars me dit comme ça en finissant, parce que le gars, il avait vu que c'était qui mon employeur, Église évangélique baptiste de Chibougamau. Alors, le gars, en finissant, il a dit, « Monsieur, je vous encouragerais à aller rencontrer votre patron. » Tu peux-tu te faire planter plus que ça? Mais il me dit ça tellement cool, tellement gentil, mais ça a fait... Urgh! Mais c'était pas lui qui me parlait. C'était Dieu qui était en train de me dire, « Gilles, t'as fait un fou de toi, là. T'as été impoli, t'as été impatient. » Et je ne l'ai pas oublié. Je ne l'ai pas oublié. Mais c'est ça. Se faire exhorter, ça veut dire se faire reprendre sur quelque chose. Soit qu'on est tombé dans le péché, soit qu'on a mal fait quelque chose. Et Dieu se sert des gens. La Bible dit « Exhortez-vous les uns les autres ». C'est un ministère d'Église. Mais il faut voir à travers l'exhortation d'où vient l'exhortation et comment Dieu se sert de celui qui vient. Et ce sont, plus souvent qu'autrement, des instruments de Dieu. C'est vrai qu'il y en a qui ne sont pas à droite. C'est vrai qu'il y en a qui sont gauche. Mais on peut-tu passer par-dessus la gaucherie puis recevoir le message et puis comprendre que Dieu est en train de me parler? À ça, il a manqué le bateau. À ça, il s'est choqué après le messager. Puis pour se débarrasser du messager et du message, il l'a shooté en prison. Mais dans le fond, il n'avait pas fait taire Dieu. Il n'avait pas fait taire Dieu. Alors, c'est une leçon difficile. Et à ça, il a manqué complètement. Au verset 12 du chapitre 16, une autre situation assez particulière. La 39e année, rappelez-vous que ce gars-là, il a régné pendant 41 ans, là, il est rendu à la fin de sa vie. À la 39e année de son règne, Assa eut les pieds malades, au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Et finalement, il est mort. On ne sait pas exactement de quoi, mais on sait une chose. Devant la maladie, il n'a pas consulté Dieu, il est allé consulter les médecins. Bon, il ne faut pas tirer la conclusion de ça que les médecins, ce n'est pas du monde à aller voir. Brian, je te regarde pas. Qu'est-ce qu'on fait avec ça devant la maladie? Il semble que ce gars-là, une de ses épreuves a été la maladie, puis on ne nous dit pas comment il est mort, on ne nous dit pas qu'est-ce qui s'est passé, on ne nous dit pas son motif, la sorte de maladie, mais tout ce qu'on sait, c'est que dans sa maladie, Dieu n'était pas là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que ça veut dire que dans la maladie, on se traîne les pieds, on ne va pas se faire soigner, puis on ne fait que prier, jusqu'à temps qu'on meure? Non, ce n'est pas vraiment ça. On réalise que devant la maladie, la maladie est un phénomène humain de vieillissement. Maintenant, la maladie provoque une réflexion que certainement Assa n'a pas faite. La maladie provoque la réflexion « Où est Dieu dans ma maladie? » Qu'est-ce que Dieu fait dans ma vie à travers la maladie? Qu'est-ce que Dieu est en train de me faire réfléchir à travers ces problèmes-là? Et quelle est la place de la médecine à l'intérieur de la maladie? C'est des questions honnêtes qu'on doit se poser honnêtement. Et on réalise que ce que Dieu lui reproche, ce n'est pas la médecine. Ce que Dieu lui reproche, c'est que Dieu n'est pas venu en premier. C'est ça qui le reproche ici. Dieu n'est pas venu en premier. Maintenant, et dans sa maladie, son cœur n'est pas plus revenu à l'Éternel que les fois précédentes où il avait perdu la vision de Dieu à l'intérieur de sa vie et de son ministère de roi. La, la, La Bible dit dans Jacques, si quelqu'un est malade, qu'il vienne voir les anciens, qu'ils vont prier pour lui, le oindre d'huile. On voit que dans la maladie est parfois une épreuve que Dieu envoie pour nous ramener vers lui. La maladie doit nous faire réfléchir, chose que Assa n'a pas faite. Maintenant, on a un exemple complètement différent dans les rois avec le roi Ézéchias, qui est tombé malade lui aussi, et on a ça dans deux rois. Le roi Ézéchias est tombé malade, une maladie qui était supposée être mortelle, c'est dans deux rois chapitre 20. Dans sa maladie, il s'est tourné vers Dieu, alors il a broyé une shot, après ça il s'est tourné vers Dieu, et il a demandé à Dieu de le guérir, et Dieu lui a donné 15 années. Chose intéressante, après que Dieu ait répondu à sa prière, Isaïe. Et puis là, ils ont mis une masse de figues. Oups! Médecine. Vous savez, la médecine était là où elle était là, à ce moment-là. Tu sais. C'était souvent rempli de superstitions ou de médecine naturelle. Mais ils ont mis une masse de figues. Isaïe est venu, il a mis une masse de figues. Puis il est guéri, puis il a vécu 15 ans de plus. Mais c'est intéressant. La première chose qu'il a faite, ça a été de se tourner vers Dieu devant l'épreuve de la maladie. À un moment donné, chez nous, j'étais malade plusieurs fois. Et puis, il y a des chrétiens qui disaient, « Gilles, on prie que Dieu te guérisse. » Je disais, « Merci, c'est fin. » Mais priez pour moi. Je disais, priez plutôt pour que je passe à travers ça de la manière que Dieu veut que je passe à travers ça. Et que si je meurs, que je meurs comme un homme de Dieu et non comme quelqu'un qui meurt en maudissant Dieu. Si Dieu devait répondre oui à toutes nos demandes de guérison, réalisez-vous qu'il n'y a pas un chrétien qui mourrait? On va tous mourir à un moment donné. À un moment donné, Dieu va dire non. Et des fois, la maladie, comme on le lit dans 1 Corinthiens 11, qui prenait la scène indignement, il dit, c'est pour ça qu'il y en a qui sont malades, même qui sont morts parmi vous. Et la mort était correspondante à une vie de désordre. Donc, à travers la maladie, Dieu veut qu'on se tourne vers lui pour le support, autant pour traverser, autant que peut-être pour reconnaître certains vices dans notre vie. Si je suis malade parce que je mange mal ou que j'ai un rythme de vie qui est désordonné, peut-être que Dieu veut me faire réaliser le style de vie que j'ai qui est complètement en dehors de sa volonté. Et ici, avec Assa, la troisième leçon qu'on voit, le déclin spirituel commence, continue par le doute que Dieu va vraiment prendre soin. Et vous savez, les moments donnés où on a le plus de doute que Dieu prend soin, c'est quand on est devant des dangers sur lesquels on n'a pas d'emprise. C'est difficile d'avoir l'emprise dans certaines maladies. Il y a certaines maladies qu'on peut faire quelque chose. Tu sais, si j'ai des problèmes d'estomac, je peux toujours changer mon alimentation. Mais si j'ai le cancer, je peux toujours prendre la chimiothérapie, mais ça ne marche pas tout le temps. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Le vieillissement vient avec une perte de capacité, une perte de santé. Mais à travers tout ça, où elle est ma dépendance sur Dieu? Et c'est dur à apprendre à chaque fois qu'on avance, à chaque fois qu'on vit une épreuve, d'apprendre à être dépendant de Dieu et placer sa confiance en Dieu, tant pour la vie, tant pour la guérison que pour la mort. Parce que Dieu ne voudra pas toujours nous guérir. Un jour, on va mourir, c'est le lot de tout être humain. Mais ça vient confronter ma dépendance envers Dieu. Et vous savez quoi? Ici, je reviens avec Ézéchias, qui, dans la maladie, s'est tourné vers Dieu, puis il a prié en pleurant. Dieu a répondu à sa prière. Les circonstances de déstabilisation, que ce soit la maladie, ou que ce soit face à des épreuves, à des situations comme le roi a eu lorsque 1 million vient contre 500 000 de ton armée, toutes les situations qui nous déstabilisent, toutes les situations qui mettent notre sécurité en danger, toutes les situations où on est dépourvu de ressources directes, toutes les situations où on est en déficit de capacité de résoudre nos problèmes, viennent poser la même question. Es-tu prêt à faire confiance à Dieu pour tes besoins? Et c'est là que la victoire d'un jour, ce n'est pas la victoire de tous les jours. Il nous faut persévérer à y revenir et à y revenir et à y revenir. Et c'est un défi énorme. Jérémie, chapitre 17, dit « Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée sans habitants. » Si vous prenez, on va arrêter là, la première partie, les quatre premières lignes, mettez là-dedans le côté émotionnel. Parce que celui qui se confie dans l'homme se confie dans les ressources autour de nous. Que ce soit les ressources financières, que ce soit les ressources humaines, que ce soit les ressources médicales, que ce soit n'importe quelle ressource, elles sont toutes terrestres et n'offrent aucune sécurité. N'offrent aucune sécurité, des fois ni à court terme ni à long terme. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte. Il n'a point de crainte. Et il ne cesse de porter du fruit. Tournez dans votre tête. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Il n'a point de crainte. La paix qui vient avec la persévérance de continuellement revenir à placer sa confiance en l'Éternel. Parce que la persévérance d'un jour, ce n'est pas la persévérance de tous les jours. Il faudra y revenir et y revenir et y revenir et y revenir jusqu'à temps qu'on meure. Et c'est tout un défi. C'est un défi de foi. Parce que le monde nous offre tellement de ressources. Le monde nous offre tellement de promesses. L'argent nous offre tellement de promesses. On s'imagine que nos amis, notre environnement, nous offrent des promesses de bonheur. On s'imagine que les pilules qu'on bouffe, les traitements qu'on prend, vont nous donner la vie puis qu'on ne mourra pas. Non, on va tous mourir. C'est notre lot. Et ce n'est pas les ressources terrestres qui vont faire notre paix. Notre paix va venir uniquement de la dépendance envers Dieu. Et c'est ça que Assa a manqué à la fin de sa vie. Il a bien commencé, mais il a mal fini. Il a mal fini. Beaucoup de gens commencent bien, mais finissent mal. Parce que quelque part, les ressources que nous offre le monde prennent plus de place que la paix qui surpasse toute intelligence, vient nous donner lorsqu'on met notre confiance en l'Éternel. Et c'est pour ça que le psaume 23 dit, « Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Imaginez-vous tout ce que ça veut dire, traverser la vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est pas le fun, là. Puis dans le texte de psaume 23, il faut dire ce que le texte dit puis ce que le texte ne dit pas. Dans le texte du psaume 23, quand il dit quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ce n'est pas écrit dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne pleureras pas. Ce n'est pas écrit tu ne souffriras pas. Ce n'est pas écrit que tu ne manqueras pas d'amis. Ce n'est pas écrit que tu n'auras pas de problème. Ce n'est pas écrit que tous tes problèmes vont être réglés. Ce n'est pas écrit ça. C'est écrit « Jésus marche avec toi ». Seulement la présence de Jésus. Seulement la présence de Jésus. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Pouvez-vous imaginer qu'est-ce que ça donne marcher dans la vallée de l'ombre de la mort et expérimenter une paix et une joie profonde. Là, tu dis, tu regardes ce gars-là qui s'en va, là, tu dis, il vit pas sur la terre, lui. C'est pas normal d'être en paix comme ça, là. C'est pas normal pour un non-croyant. Mais pour un croyant, c'est la normalité. Dieu n'a jamais promis d'enlever nos épreuves. Dieu nous a promis qu'il marcherait avec nous dans nos épreuves. Et ça, Assa l'a oublié. Il n'a pas persévéré. Et les victoires du début ne se sont pas continuées dans les victoires jusqu'à la fin. Le psaume 37 dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort en l'Éternel, mets en lui ta confiance. » Assa a oublié ça. Pourtant, il avait bien commencé. Il a oublié ça. Jusqu'où va ta confiance? Pas ta confiance quand tout va bien, c'est facile, celle-là, là. Jusqu'où va ta confiance dans les moments difficiles? Dernier texte. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Et quand on regarde comment Assa s'est comporté, au début, il y avait une croissance parce qu'il y avait un engagement spirituel. Mais devant une exhortation biblique, il a voulu tuer le messager, il a voulu se débarrasser du message en se débarrassant du messager. Mauvaise idée. Si quelqu'un vient t'exhorter, reçois-le. Humilie-toi, reçois-le. Et vois-le comme Dieu t'envoie quelqu'un. Et la troisième chose, le déclin spirituel vient avec le doute que Dieu va prendre soin. Et quand on est dans la difficulté, quand on est dans la carence de quoi que ce soit, c'est là que l'adversaire nous attend. Et on a tout un défi. Parce que la victoire d'un jour, ce n'est pas la victoire de tous les jours. On a besoin de persévérer, persévérer et persévérer. À travers quoi passes-tu présentement? Est-ce que tu vis des moments où il y a des choses qui t'inquiètent, qui te font réveiller la nuit? Est-ce que tu vis des situations présentement où tu as besoin de mettre ta main dans la main de Dieu puis marcher avec lui dans ta vallée, peu importe ce qui arrive. Dieu n'a jamais promis qu'il enlèverait les épreuves, mais il a dit qu'il marcherait avec nous. Il a dit qu'il nous promettait de nous donner la victoire dans l'épreuve et qu'il serait là avec nous. C'est un défi de foi à laquelle je vous encourage à prier que Dieu vous accorde cette persévérance de rester victorieux jusqu'à la fin. Prions, s'il vous plaît. Père éternel, merci pour les exemples, les bons comme les mauvais exemples dans la parole qui nous enseignent, parce que dans le fond, on est pareil, c'est juste les contextes qui changent, c'est juste les situations qui donnent des nuances, mais on a un cœur d'homme qui est enclin à se confier dans les mauvaises choses. Père éternel, viens nous aider, viens m'aider à persévérer jusqu'à la fin, à garder ma confiance, ou à placer ma confiance en toi jusqu'à la fin. Seigneur, je te prie pour quiconque ici ce matin vit des tensions, des difficultés, des épreuves. Seigneur Jésus, fortifie sa foi de telle façon à ce qu'il persévère fidèlement à s'engager avec toi jusqu'à la fin. Merci, Père éternel, que tu nous as donné ton esprit, justement, pour qu'on puisse être avec toi, dans ta main, sous ta protection, et qu'on puisse marcher avec la paix, une paix qui surpasse toute intelligence, qui nous vient de ta présence et de ta protection. Béni sois-tu, on a besoin de ton aide, Père éternel, et on veut te supplier, de nous aider à marcher avec persévérance. C'est en Jésus-Christ qu'on t'a prié. Amen.
Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien. Rien que le sang de Jésus.